Merci d'être avec nous encore ce soir aux amateurs de sport. C'est le moment de retrouver notre ami Daniel Brière. Salut Daniel!
Salut Mario!
En plein déménagement, mon Daniel?
Ben oui, en plein déménagement. On s'est occupé un petit peu, mais c'est le fun.
Ben merci de trouver quelques minutes pour nous autres. Il manque juste une game de hockey à jouer ce soir pour imiter le Rocket, parce que tu te souviens que dans la légende du Rocket, c'est après un déménagement qu'il en a mis 5 dedans puis qu'il y a eu 3 étoiles le même soir.
Ben, je vais peut-être aller encourager les Flyers ce soir contre les Rangers dans quelques minutes.
Ouais, certainement. Je voulais te parler des gars les plus talentueux de la Ligue nationale, puis tu les connais bien pour la plupart, pour avoir joué contre ou avec. Puis l'un de ceux dont le nom est sur toutes les lèvres actuellement, c'est Nathan MacKinnon. Ça a été ton coéquipier avec l'Avalanche du Colorado. Actuellement, il ressemble à quelqu'un qui est pas mal le meilleur joueur de la Ligue en ce moment. Je sais pas si on peut dire ça de lui en tout moment, mais en tout cas, depuis après les fêtes, depuis que Duchesne est parti, il n'y a pas personne qui est capable de l'arrêter, Daniel.
Oui, je suis d'accord. Ce qu'il a été capable de faire dernièrement, puis ce qu'il a été capable de faire avec son équipe, de les amener à peut-être faire les séries éliminatoires. Écoute, c'est ça qui est le plus impressionnant. On parle souvent des fois des joueurs. C'est qui le MVP?
Oui.
Est-ce que c'est vraiment juste le meilleur joueur ou c'est le joueur qui est capable ou qui est peut-être le plus demandant à son équipe ou qui en donne le plus à son équipe? Puis pour moi, Nathan MacKinnon se retrouve dans cette liste-là parce que si on regarde là, les troisième, quatrième ligne de l'Avalanche, puisque l'Avalanche a vécu les dernières années, puis j'en ai fait partie il y a 3 ans, c'est pas la même équipe là, depuis que Nathan MacKinnon a pris ça en charge, depuis le départ de Duchesne. Il y avait toujours un peu une rivalité entre les deux quand j'y étais. Puis les deux étaient, écoute, 3 ans plus jeunes, beaucoup plus immatures, surtout dans le cas de MacKinnon. Mais là, ce qu'on voit de lui, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est devenu un vétéran. C'est devenu un leader de cette équipe-là. Puis c'est beau à voir.
Quand tu dis surtout dans le cas de MacKinnon, ça se traduit comment l'immaturité d'un jeune joueur qui a beaucoup d'ambition puis quand il y a une rivalité avec lui puis un autre dans la même équipe, Daniel?
Ouais, mais écoute, les deux joueurs étaient vus un peu comme le futur de l'Avalanche Colorado quand Nathan MacKinnon est arrivé. Sa première année a marqué au-dessus de 20 buts.
24 buts, 39 passes, 63 points sa première.
Ben écoute, puis la deuxième année, c'est là que moi j'y suis arrivé. Puis les choses n'ont pas cliqué pour lui du début. Il y a eu beaucoup de pression. Puis je me souviens là, que la pression, puis lui-même l'admettait que ça le frustrait parce qu'il n'était pas capable de scorer autant qu'il l'avait fait l'année précédente. Puis là, les gens parlaient beaucoup de Matt Duchesne comme « Ah, mais c'est lui le futur de l'équipe ». Donc, il y avait un peu cette rivalité-là entre les deux. Je pense que ça a été un très, 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 très bon move de l'Avalanche de se débarrasser d'un des deux. Puis je pense que c'est la bonne chose qu'ils ont fait en choisissant MacKinnon plutôt que Duchesne. Mais tout ça a fait en sorte que Nathan MacKinnon s'est senti plus à sa place, a peut-être été capable de reprendre un peu plus un rôle de leadership plutôt qu'un rôle de recrue là, quand Matt Duchesne est parti.
Il a compté 14 buts seulement l'année où tu es arrivé là-bas. T'sais, il en avait compté 24 à son année recrue. L'année suivante, il en a compté 21. L'an passé, seulement 16. Et là, 38 en 65 matchs. Est-ce que c'était clair pour toi, Daniel, quand tu jouais avec, que ça allait devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue? Peut-être un jour sera-t-il le meilleur, mais c'était-tu clair? Ouais. Puis ça, je pense que du point de vue de plusieurs, ça a peut-être été plus long qu'on pensait aussi avant qu'il arrive là.
Je te dirais pas que c'était clair, parce qu'il y avait encore beaucoup de questions dans son cas. On se demandait, tu sais, côté maturité, ce que je te parlais, il y a des joueurs qui s'en sortent jamais. Il y a des joueurs qui sont jamais capables de passer par-dessus ça, cette pression-là. Mais on voyait que le talent naturel y était dans le cas de Nate MacKinnon. C'est un joueur, oui, il a beaucoup de talent, mais c'est sa puissance, moi, qui m'impressionnait le plus. Tu sais, il y a des joueurs comme un Matt Duchesne va te battre à 1 contre 1 par de la dentelle. Il va contourner, il est rapide de côté, on dit de side to side, de côté à côté, parallèlement. Lui, Nate MacKinnon, lui, sa force, c'est que il pouvait te mettre la rondelle dans les patins puis te passer sur le corps. C'est cette puissance-là qui m'impressionnait dans le cas de Nate MacKinnon. Puis c'était juste, ça prenait du temps un peu pour maturer son jeu, tout comme son comportement. Puis on voit aujourd'hui ce que ça donne. Mais je te dirais pas que c'était clair, mais on voyait qu'il était un surdoué, il n'y a pas de doute là-dessus.
Même si tu n'as pas joué avec, si je te posais la question un petit peu de la même façon, est-ce que pour toi, c'est clair que Jonathan Drouin peut devenir le meilleur attaquant des Canadiens et l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, même s'il a connu peut-être cette année une année qui ressemble à une année que MacKinnon a vécu au Colorado, Daniel?
Ouais. Dans le cas de Jonathan Drouin, je pense que on voit un joueur qui avait besoin d'apprendre comment jouer à Montréal, comment faire face à la pression, même s'il est québécois, de faire face à cette pression constante-là de jouer à Montréal, qui est très, très demandante pour un athlète qu'on voit comme le prochain grand joueur du Canadien. Donc, ça prend peut-être un peu plus de temps. Moi, je suis convaincu que Jonathan Drouin, il va continuer à s'améliorer, va devenir ce joueur-là qu'on recherchait, surtout quand on va être capable de l'entourer encore mieux. Surtout là avec la perte des trois gros morceaux de Carey Price, Pacioretty, puis Weber. Ça met beaucoup plus de pression sur les épaules de Jonathan Drouin en plus. Je pense qu'en l'entourant mieux, en amenant d'autres vétérans, d'autres joueurs plus offensifs avec lesquels il va pouvoir jouer dans le futur, devrait l'aider énormément aussi.
Quand on regarde ça avec le recul, à 22 ans, là, t'étais loin d'avoir accompli tout ce que t'allais accomplir dans la Ligue nationale, Daniel, hein? Quand on regarde ça en rétrospective, là.
Oui, il y a encore beaucoup de temps en avant d'eux autres, ces gars-là à 22 ans. Mais tu sais, quand on est dans le moment, on réalise pas ça. On réalise pas qu'il y a peut-être encore 10, 12, 14 ans devant nous à jouer dans la Ligue nationale. On se dit, on veut performer, on veut être le meilleur joueur possible tout de suite. C'est difficile d'être capable de voir dans le futur puis de se dire, OK, relax, mets-toi pas toute cette pression-là sur les épaules, profite du moment, essaie de t'améliorer, mais profite du moment. Puis c'est peut-être un de mes regrets personnels quand j'avais 21, 22, 23 ans, puis je me promenais entre les mineurs puis la Ligue nationale. Je voulais tellement être dans la Ligue nationale tout de suite que je me mettais beaucoup de pression de ce côté-là plutôt que de laisser les choses prendre leur cours. Donc, si j'avais la chance, ça, c'est quelque chose que je changerais dans mon cas.
Intéressant de te l'entendre dire, Daniel. J'aimerais un petit peu revenir sur le sujet avec lequel on a amorcé la discussion. On parlait de Nathan McKinnon. C'est un candidat au Trophée Hart, mais pour l'élargir justement au fait que il y en a plusieurs gars qui connaissent toute une année cette année. Ta définition d'un gagnant du Trophée Hart, tu nous en as donné une bonne idée, mais qui devrait le gagner pour toi? Est-ce que c'est Nathan McKinnon? Malkin a toute une saison également, 91 points, même affaire que Nathan. Ouais. Kucherov, puis il y en a peut-être Claude Giroux, pas très loin de chez vous d'ailleurs, également, qui connaît toute une année.
Oui, il n'y a pas de doute, Claude Giroux, qui a connu une grosse année lui aussi, doit faire partie du lot. Pour moi, un des joueurs qui m'a peut-être le plus impressionné, pour moi, ça a été Malkin. Parce que Crosby n'a pas connu une grosse saison, ou disons peut-être pas au niveau qu'on est habitué de le voir. On dirait que c'est toujours dans ces moments-là que Malkin prend la relève. Quand Crosby ne performe pas aussi bien qu'on pense, ou quand Crosby est blessé, c'est là qu'on voit Malkin se lever. Puis cette saison, ça a été la même chose, parce que ça n'a pas bien commencé pour les Pingouins. Mais tout à coup, là, Malkin, il y a eu Castles qui a bien joué aussi. Mais pour moi, Malkin, c'est lui qui a été la bougie d'allumage pour les Pingouins. Puis c'est pour ça que je le vois avec Nate McKinnon comme les deux favoris là, au Trophée Hart cette saison.
Bon, on parle pas de Phil Kessel comme d'un candidat au Trophée Hart, mais c'est un gars qui est vraiment habile. Qu'est-ce que tu penses de lui comme joueur de hockey, Daniel? T'sais, on le voit à Toronto, on le voit un peu à Boston maintenant avec Pittsburgh. Il est 8e marqueur de la Ligue, 82 points. Il a pas l'air du gars super qui se prépare à faire un Ironman, en tout cas, là, quand tu le vois dans le vestiaire.
Non, pas du tout. Mais écoute, il performe quand même bien. Moi, je le vois comme un très très bon. Je le vois comme un excellent joueur de soutien. C'est pas le gars que je crois pas qu'il peut être le leader de mon équipe. Je bâtirais peut-être pas mon équipe alentour de lui puis dire, regarde, c'est lui qui va être notre leader, c'est lui qui va nous guider. Mais c'est la raison pourquoi il est parti de Toronto. Ça fonctionnait pas de ce côté-là. Il se retrouve à Pittsburgh avec un Crosby, avec un Malkin devant lui. Il y a beaucoup moins d'attention sur ses épaules, puis ça lui donne la chance de performer un peu plus dans l'anonymat. Puis je pense qu'il est plus confortable comme ça que d'être là, le gars dans le spotlight tous les soirs. C'est pour ça que ça fonctionne bien avec les Pingouins. Je pense que c'est un match idéal entre lui et les Pingouins. Puis écoute, c'est quand même tout un joueur de hockey.
Ben là, oui.
Cette saison, il a connu une belle saison lui aussi.
Je comprends. Donc, trois joueurs des Pingouins parmi les 12 meilleurs marqueurs de la Ligue. En fait, les 13 meilleurs marqueurs de la Ligue. Le 13e, c'est Sidney Crosby qui n'a pas sa meilleure année en termes de production. 24 buts, 55 passes. T'as-tu vu le but qu'il a marqué contre le Canadien hier quand il a dribblé avec la rondelle dans les airs? Il a été capable de l'intercepter, de se la repasser dans les airs avant de la tiper du revers dans le filet, c'est quand on parle d'habileté, Daniel, là.
Ouais, écoute, c'est impressionnant. Puis Sidney Crosby est capable de faire ça dans les gros moments. Il est capable de faire ça, des jeux comme ça en plein milieu d'un match. Tu sais, j'ai vu plusieurs joueurs incroyables avec leurs mains pendant les entraînements faire des jeux que tu roules les yeux parce que c'est incroyable de voir ça. Mais Crosby est capable de le faire en jouant en plein milieu d'un match. On l'a vu hier contre le Canadien. Tu sais, c'est la raison pourquoi moi, depuis les 10 dernières années, il a été considéré comme le meilleur joueur dans la Ligue nationale.
J'aimerais juste en ajouter un petit peu sur Crosby, parce que tu sais, quand on essaie d'établir qui sont les meilleurs joueurs de l'histoire, serais-tu d'accord pour dire que, tu sais, comme McDavid, il patine sa glace, c'est clair qu'il patine à peu près plus vite que tout le monde. Tu peux pas dire ça de Crosby. Ouais. Il est moins gros que Malkin. Il n'y a pas le lancer d'Ovechkin. Tu sais, il n'y a pas une catégorie d'éléments que tu peux analyser, tu peux dire qu'il ressort là à 100 000 en avant de tout le monde. Mais pourtant, il est 100 000 en avant de tout le monde. Comment ça se fait, Daniel? Ouais.
Ben, tu sais, il y a ça, oui, c'est vrai. Son intelligence sur la patinoire, son adaptation sur la patinoire est vraiment incroyable. Mais il y a deux choses, moi, qui m'ont toujours impressionné. Puis c'est pas ça qui fait de lui qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale, mais c'est deux aspects qui l'amènent à être là. Une de ceux-là, c'est la simplicité dans son jeu. Puis quand je parle de la simplicité, c'est quand il y a la rondelle.
Les bons choix.
Très, très rarement, est-ce qu'il va essayer de faire des jeux à travers 3-4 joueurs pour avoir un petit but facile, disons, à Castles, sur le bord du poteau. C'est toujours des jeux qui sont simples, mais qui avancent, qui aident l'équipe dans la bonne direction. Moi, c'est une chose qui m'impressionnait de lui. Puis la deuxième chose, c'est son leadership. Tu sais, comme tu as mentionné, c'est pas peut-être pas le plus dominant, le plus rapide, le plus gros, le plus fort, mais son leadership est toujours là dans les gros moments. C'est lui qui est capable de faire gagner ses équipes. Il sait, il est en contrôle. T'sais, on parle de McDavid comme peut-être le plus talentueux dans la Ligue nationale présentement, mais il a encore pas été capable d'amener son équipe à ce niveau-là, comme Crosby l'a fait à plusieurs reprises là, dans les 10-12 dernières années. Donc, jusqu'à ce que McDavid soit capable de faire ça, je pense pas qu'il arrive au même niveau là, que Sidney Crosby.
Daniel, c'est déjà tout. Je pense qu'il y a des boîtes qui t'attendent à être charrié dans le déménagement. Fait que merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Je te remercie, ça m'a donné un petit break. J'ai pu reprendre mon souffle un peu.
Ouais, je pense qu'il y en a qui t'attendent là. Salut Dan, merci.
Salut Mario.
Bye bye, à très bientôt. Toujours un plaisir d'accueillir Daniel Brière. Et après la pause, on s'entretient avec Antonin Descarry qui nous parle de la nouvelle prise du groupe Interbox. À tout de suite.